إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes ce soir au dernier chapitre du livre de la prière de l'ouvrage Manhaj al-Salikin, écrit par l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé ce chapitre Bab salat al-Eidain, chapitre au sujet de la prière des deux fêtes. Et ce qui est visé par les deux fêtes, ce sont la fête de la rupture du mois de Ramadan, Eid al-Fitr, et la fête du sacrifice, Eid al-Adha, qui a lieu le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah. Ces deux fêtes sont donc les deux fêtes des gens de l'islam. Et il est rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et d'autres, que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, les gens de Médine avaient deux jours, c'est-à-dire deux jours durant l'année, durant lesquels ils se divertissaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Allah vous les a remplacés par mieux qu'eux, le jour du sacrifice et le jour de la rupture. » Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement remplacé ces deux jours par les deux jours de fête des gens de l'islam. Les gens de science ont dit que ceci nous indique qu'il est interdit d'ajouter d'autres fêtes à ces deux fêtes, comme c'est le cas de ceux qui instaurent des nouvelles célébrations au cours de l'année, comme les anniversaires, l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Mawlid, ou encore la fête du nouvel an, que ce soit le nouvel an égérien ou le nouvel an grégorien, et autres parmi les fêtes qui n'ont aucune origine dans notre religion. Et c'est une opposition claire à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'autant plus que c'est une manière de s'assimiler aux mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans le hadith authentique « Celui qui s'assimile à un peuple en fait partie ». Il est donc interdit pour le musulman de célébrer au cours de l'année autre que ces deux fêtes qui sont les fêtes des gens de l'islam, la fête du sacrifice et la fête de la rupture. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a tout d'abord commencé par nous exposer le jugement de la prière du Eid, ou de la prière des deux fêtes. Il a dit, rahimahullah, « Amara al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Nas bil-khuruj ilayhima, hatta al-awatiq wal-huyyab, yashhadna al-khayr wa da'wat al-muslimin, wa ya'tazilu al-huyyad al-musalla, muttafaqun alayhi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de sortir pour ces deux fêtes, même aux jeunes filles, c'est-à-dire les jeunes filles qui viennent tout juste d'atteindre la puberté ou qui approchent la puberté, ainsi que celles qui ont leurs menstrues, afin d'assister aux biens et aux invocations des musulmans, et que celles qui ont leurs menstrues s'écartent du lieu de prière. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Rahimahum Allah Ta'ala. L'auteur Rahimahullah Ta'ala a donc stipulé que la prière des deux fêtes est une obligation individuelle, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire pour tous. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de sortir pour celle-ci. Et il a même ordonné cela aux femmes, alors que comme on l'a vu dans les cours précédents, les femmes ne sont pas tenues de se rendre aux prières en groupe ni même à la prière du vendredi. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ait ordonné de sortir pour cette prière, ceci nous montre l'importance de cette prière dans notre religion. Et les preuves de la légitimité de cette prière, elles sont venues également dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Kawthar, « Fassalli li rabbika wanhar » et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Certains parmi les gens du tafsir ont dit que la prière concernée ici est la prière du jour de la fête du sacrifice, qui est suivie du sacrifice. C'est pour ça qu'il a dit « Et prie pour ton Seigneur et sacrifie ». Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-A'la, « Qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى. À certes réussi celui qui se purifie, puis se rappelle du nom de son Seigneur et prie. Les gens du tafsir ont dit celui qui se purifie, c'est-à-dire celui qui donne l'aumône de la rupture, qui est donnée avant la prière de la fête de la rupture, puis qui se rappelle du nom de son Seigneur et prie, c'est-à-dire fait la prière du Eid. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous explique quel est le temps de cette prière et il dit wa waqtuha min irtifa'i ash-shams qayd rumh ila az-zawal. Et le temps de la prière des deux fêtes est du lever du soleil à hauteur d'une lance jusqu'au zénith. Le lever du soleil à hauteur d'une lance, comme on l'a vu lors du cours sur les temps de prière, c'est-à-dire quelque temps après le shuruq. Car au moment du shuruq, c'est le moment d'interdiction de prière. Donc environ une quinzaine ou vingtaine de minutes après le shuruq, entre le temps de la prière du Eid. Et il dure jusqu'au zénith. On voit donc que c'est le même temps que la prière d'Ad-Duha, la prière de la matinée. Et les gens de science sont unanimes pour dire que la prière du Eid ne peut pas être accomplie avant le shuruq, ni au moment du shuruq. Mais elle n'est permise qu'au moment où deviennent permises les prières surrogatoires, c'est-à-dire lorsqu'entre le temps de la prière d'Ad-Duha. Et de la même manière, elle n'est pas accomplie après le dhuhr, mais il est indispensable de l'accomplir dans ce temps, comme cela est démontré par les textes. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous expose les choses qui sont recommandées le jour du Eid, et notamment concernant la prière. Et il a mentionné sept points, rahimahullah ta'ala. Il dit « wa sunna fi'luha fi s-sahra » et la sunna est de l'accomplir dans un lieu désertique. Comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sortait le jour de la rupture et le jour du sacrifice au musalla, et la première chose par laquelle il commençait est la prière. » Il n'est pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait accompli cette prière à la mosquée sans excuse. Et la raison pour laquelle cette prière est légiférée en extérieur est qu'en la faisant dans un lieu désertique, ceci permet de manifester ouvertement ce rite immense de notre noble religion. D'autant plus qu'il n'y a pas de difficulté en cela, contrairement à la prière du vendredi ou les cinq prières, car cette prière n'a lieu que deux fois dans l'année. Ensuite, il dit deuxièmement « wa ta'jilu al-adha wa ta'khiru al-fitr ». Ensuite, il dit, rahimahullah, deuxièmement, est le fait d'accomplir rapidement la prière du sacrifice, et troisièmement, est de repousser la prière de la rupture. En effet, la sunna est d'accomplir la prière du Eid le jour du sacrifice dès l'entrée de son temps, et ce afin que les gens puissent aller accomplir après celle-ci leur sacrifice. Quant au jour de la prière de la rupture, il est recommandé de la repousser un peu après l'entrée de son temps, et ce afin de laisser aux gens le temps de pouvoir donner l'aumône de la rupture, zakat al-fitr. Imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet « Je ne connais aucune divergence concernant cette question. » Ensuite, il dit, rahimahullah, mentionnant la quatrième chose qui est recommandée « Wal-fitru fil-fitri khassa qabla s-salah bitamaratin witra » et il est recommandé de ne pas rester à jeun lors du jour de la fête de la rupture, particulièrement avant la prière, c'est-à-dire en mangeant quelques dattes en nombre impair. Comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que le jour de la fête de la rupture, il ne sortait pas, c'est-à-dire pour la prière, avant d'avoir mangé quelques dattes. Et il les mangeait en nombre impair. Quant au jour de la fête du sacrifice, alors il est rapporté qu'il ne mangeait rien avant la prière. Donc on voit ici une distinction entre les deux prières, entre les deux fêtes. Le jour de la fête de la rupture, la sunna est de ne pas sortir à la prière sans avoir mangé quelques dates en nombre impair. Et ce, afin de différencier ce jour des jours qui l'ont précédé parmi les jours de Ramadan. Ceci fait partie des sagesses pour lesquelles cela est recommandé. Quant au jour de la fête du sacrifice, alors il est recommandé de ne pas manger avant la prière. Et ceci n'est pas une obligation, mais simplement une recommandation. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, cinquièmement, « wa an yatanadhaf wa yatatayyab laha » et qu'il se lave et se parfume pour celle-ci. C'est-à-dire qu'il est recommandé, pour la prière des deux fêtes, de s'y rendre propre et parfumé. Et il est possible pour cela d'accomplir le ghusl. En effet, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, a rapporté qu'un homme a interrogé Ali, radiyallahu ta'ala anhu, au sujet du ghusl. Alors Ali, radiyallahu ta'ala anhu, lui a dit que le ghusl avait lieu le jour du vendredi, le jour de Arafat, le jour du sacrifice et le jour de la rupture. L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit, au sujet de cette parole rapportée de Ali, que sa chaîne de transmission est authentique, et qu'elle fait partie des meilleurs arguments démontrant la recommandation de faire le ghusl pour la prière des deux fêtes. Et cela également rapporté de Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui faisait le ghusl le jour de la rupture avant de se rendre sur le lieu de prière, avant de se rendre au musalla. Il est également rapporté de lui, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il se parfumait le jour de la fête de la rupture. Bien sûr, en ce qui concerne le parfum, cela est spécifique aux hommes. Quant à la femme, il ne lui est pas permis de se parfumer lorsqu'elle sort de son domicile, mais elle doit sortir en se couvrant totalement, sans se parfumer et sans s'exhiber, et en s'éloignant de toute source de tentation pour elle-même ou pour les autres. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, sixièmement, وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ, et il met ses meilleurs vêtements. Comme on l'a vu, pour la prière du Jumu'ah. Il est légiféré pour les hommes de mettre de beaux vêtements pour cette prière et de s'embellir de manière légiférée. En effet, l'embellissement, malheureusement aujourd'hui, certaines personnes le comprennent selon la mode qui bien souvent s'oppose à notre noble législation. Et ils mettent le jour de la fête ou le jour du vendredi des vêtements qui ne sont pas des vêtements par lesquels on s'embellit. Donc lorsqu'on parle d'embellissement, c'est un embellissement conforme à ce qui est légiféré. Il ne fait pas partie de l'embellissement pour l'homme de raser sa barbe, que ce soit le vendredi, le jour du Eid ou tout autre jour de l'année. Au contraire, ceci est une forme d'enlaidissement, wal'iyadu billah. Et cela s'oppose à ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de laisser pousser la barbe et de tailler la moustache. Donc ceci est un point très important à bien comprendre, afin qu'une personne ne mette pas des habits non légiférés ou des habits par lesquels elle s'assimile aux mécréants ou aux pervers, puis ensuite qu'elle pense mettre en pratique ainsi la sunna. Non, l'embellissement, c'est par des vêtements légiférés et conformes à notre noble religion. Ensuite, il dit septièmement, وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرٍ, et il part en empruntant un chemin et il revient par un autre chemin. Et ce comme cela est mentionné dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Eid, prenait un chemin différent au retour qu'à l'aller. Ceci sont donc les sept points que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés parmi les choses recommandées lorsque l'on se rend à la prière du Eid. Et on va voir à la fin du chapitre qu'il est recommandé également de faire le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah sur le chemin de la prière et une fois arrivé au musalla jusqu'à l'arrivée de l'imam. Et il est recommandé également de se rendre tôt à cette prière. Et ce, afin de pouvoir te rapprocher de l'imam et également obtenir la récompense de l'attente de la prière. Et ce, afin que ta récompense soit plus abondante. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, va nous décrire comment a lieu cette prière. La prière des deux fêtes. Et celle-ci a lieu avant le sermon, comme cela est prouvé par le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr, Omar et Uthman, priaient la prière des deux fêtes avant le sermon. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc, comment a lieu cette prière? Le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, فَيُصَلِّ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ, il prie pour eux deux unités, comme cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti le jour du sacrifice ou le jour de la rupture et a prié deux unités. Et il n'a prié ni avant cela ni après cela. C'est-à-dire, que la prière du Eid est de 2 unités et qu'il n'y a pas de prière liée à celle-ci, que ce soit avant ou après. Et certains pourraient se dire, qu'en est-il si la prière du Eid a lieu à la mosquée? On a vu que la sunna est qu'elle soit accomplie dans un lieu désertique à l'extérieur. Mais si elle a lieu à la mosquée, ai-je le droit de prier 2 unités lorsque je rentre dans la mosquée pour Tahiyat al-Masjid? La réponse est oui, tu peux prier Tahiyat al-Masjid, car cela, tu ne le fais pas spécifiquement pour le jour du Eid, mais tu le fais parce que tu entres dans la mosquée. Contrairement au cas où tu te rends au Musalla, si la prière est accomplie à l'extérieur ou dans un endroit autre que la mosquée, comme cela arrive parfois dans certaines villes, dans de grandes salles ou autres, alors dans ce cas-là, tu ne feras pas 2 unités, mais tu t'asseoiras directement, car ceci n'est pas la mosquée. Ensuite, il dit, rahimahullah, bila adhan wa la iqama. Sans adhan, sans appel à la prière, ni iqama, le petit appel. Et ce, comme le démontre le hadith rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, j'ai prié avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la prière des 2 fêtes, plus d'une ou 2 fois, sans adhan ni iqama. Il n'est donc pas légiféré de faire un appel à la prière pour la prière des 2 fêtes. Ensuite, il dit, rahimahullah, yukabbiru fil oula sab'an bitakbirati l'ihram. Dans la première unité, il fait le takbir 7 fois en comptant takbirat l'ihram. C'est-à-dire que tu fais takbirat l'ihram, le takbir de sacralisation par lequel tu entres en prière, et tu ajoutes à celui-ci 6 takbirs. Et la manière de procéder est que tu prononces ce takbir par lequel tu entres en prière, takbirat l'ihram, tu dis Allahu Akbar. Après celui-ci, il est recommandé de faire l'invocation d'ouverture, comme pour toutes les autres prières, comme on l'a vu lors du cours sur la description de la prière. Après cela, tu ajoutes les 6 takbirs en disant 6 fois Allahu Akbar. Une fois que tu as prononcé ces 6 takbirs, tu dis A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tu prononces la basmala et la récitation de Surat al-Fatiha commence. Et si l'imam a oublié de prononcer ces takbirs, il fait le takbir de sacralisation, il fait l'invocation d'ouverture, puis il commence à réciter la Fatiha. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, Inch'Allah ta'ala, car ces takbirs sont recommandés, ne sont pas obligatoires, ni une condition de la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa fi thaniya khamsan siwa takbiratil qiyam. Et dans la deuxième unité, il fait le takbir 5 fois, sans compter le takbir lorsque tu te relèves. Donc tu vas te relever en prononçant Allahu Akbar et ensuite tu vas prononcer encore 5 takbirs, une fois debout. La preuve concernant les takbirs est un hadith rapporté par Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, et jugé bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le takbir, lors de la prière de la rupture, est du nombre de 7 dans la première unité et 5 dans la deuxième. Et la lecture est après les takbirs dans les 2 unités. » Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbir. » Il lève ses mains avec chaque takbir. C'est-à-dire que ces takbirs supplémentaires, lorsque tu les prononces, en même temps tu vas lever tes mains comme tu le fais pour le premier takbir de la prière. La preuve à ce sujet est la généralité du hadith de Wa'il, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lever ses mains pendant le takbir. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de cette parole, je vois que ce hadith entre dans celui-ci tout takbir. Et l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de la chaîne de transmission de cette parole qu'elle est bonne. Il dit, elle comprend un bénéfice important qui est la légitimité de lever les mains avec tout takbir, car le hadith est général. Ensuite, il dit, rahimahullah, ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. Et il loue Allah et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre chaque takbir. On a vu que tu prononces le takbir de sacralisation, puis après celui-ci tu fais l'invocation d'ouverture. Ensuite tu vas ajouter ces takbirs supplémentaires. Le shir rahimahullah ta'ala nous dit que entre ces takbirs supplémentaires, il est permis de louer Allah et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Toutefois, il n'y a aucune formule de rappel particulière qui n'est rapportée à ce sujet. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait le silence un instant entre chaque takbir, mais il n'est pas rapporté de lui une formule de rappel particulière à prononcer entre les takbirs. Ensuite, il dit rahimahullah: thumma yaqra'u al-fatiha wa surah. Ensuite, après avoir prononcé les takbirs supplémentaires, il récite Sourate al-Fatiha et une Sourate, comme cela est démontré par le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lisait lors de la prière des deux fêtes et la prière du vendredi, Sabbih isma rabbika al-A'la, Sourate al-A'la, et Hal ataka hadith al-Ghashiyah, Sourate al-Ghashiyah. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc, comme pour la prière du vendredi, il est recommandé pour l'imam de réciter après Sourate al-Fatiha, Sourate al-A'la dans la première unité et Sourate al-Ghashiyah dans la deuxième unité. Et dans un autre hadith rapporté aussi par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: Umar ibn al-Khattab m'a interrogé au sujet de ce qu'avait récité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la fête. Je lui alors dis qu'il avait récité Iqtarabat as-sa'a, Sourate al-Qamar, c'est-à-dire dans la première unité, et Qaf wal-Qur'an il-Majid, Sourate Qaf dans la deuxième unité. Ceci est également une chose qui est légiférée et recommandée pour l'imam. Ou bien il lit Sourate al-A'la dans la première unité et Sourate al-Ghashiyah dans la deuxième, ou alors il lit Sourate al-Qamar dans la première unité et Sourate Qaf dans la deuxième unité. Ensuite il dit, rahimahullah, وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا. Et il récite à voix haute dans cette prière, comme on le voit dans les hadiths que l'on vient de mentionner. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont pu entendre ce que récitait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cela démontre qu'il récitait à voix haute. فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيِّ الْجُمُعَةِ. Une fois qu'il a fait les salutations, qu'il a terminé cette prière, il prononce deux sermons comme les deux sermons du vendredi, c'est-à-dire de la même manière. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet: il n'est rien rapporté concernant le fait de prononcer deux sermons le jour du Eid. Mais ce sur quoi on se base est l'analogie avec le Jumu'ah. Et c'est pour cela que certains savants ont considéré que une seule khutbah était suffisante pour le Eid, étant donné que rien n'est rapporté démontrant qu'il fallait faire deux khutbah. Et c'est ainsi que faisaient nos mashayikhs et nos enseignants au Yémen, qui ne faisaient qu'une seule khutbah le jour du Eid. Quoi qu'il en soit, ceci est une question au sujet de laquelle la divergence est admise, étant donné qu'elle est basée sur un effort de réflexion. Il dit ensuite, rahimahullah, illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasibata lil-waqt. Il dit, si ce n'est qu'il mentionne dans chacun des sermons les règles appropriées au moment. C'est-à-dire que contrairement au sermon du vendredi, dans lequel le khatib va plutôt sermonner les gens, les exhorter et ainsi de suite, durant le sermon de la prière des deux fêtes, il est recommandé qu'il leur énonce les règles appropriées au moment. Le jour de la fête du sacrifice, il leur mentionne par exemple les règles liées au sacrifice afin qu'ils accomplissent un sacrifice valide, Inch'Allah ta'ala. Et cela est démontré par le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: le jour du sacrifice, ceux qui ont fait leur sacrifice avant la prière, alors qu'ils recommencent. C'est-à-dire que leur sacrifice n'est pas valide. On voit donc qu'il a mentionné une des règles importantes et qui était nécessaire pour les gens d'entendre en ce moment. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. Et il est recommandé le takbir al-mutlaq, les deux nuits du Eid, les deux nuits de la fête, ainsi que durant les 10 jours de Dhul-Hijjah. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici, il va nous parler de la question du takbir. Comme vous le savez, le jour du Eid, les musulmans proclament la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce takbir, il a lieu de deux manières. La première manière, c'est le takbir al-mutlaq. On dit mutlaq, c'est-à-dire qu'il est libre. Il n'est pas restreint à un moment particulier, mais tu peux le faire à tout moment. Celui-ci, il a lieu concernant la fête de la rupture à partir du maghreb du dernier jour du mois de Ramadan, c'est-à-dire une fois que le mois de Shawwal a commencé. À partir du maghreb jusqu'à la prière du Eid, jusqu'à la prière de la fête de la rupture, il est recommandé de faire le takbir en tout moment, sans le lier à un moment particulier, pas spécifiquement après la prière, mais en tout moment. Et d'autant plus, comme on a dit, lorsque tu te rends au musalla. Et une fois arrivé au musalla, tu continues ce takbir jusqu'à ce que l'imam arrive. Une fois que l'on voit l'imam arriver, on arrête, car il vient et on commence la prière de la fête. Ceci est donc concernant la fête de la rupture. Il y a ce takbir qui est légiféré. Concernant la fête du sacrifice, cette forme de takbir, elle commence dès l'entrée du mois de Dhul-Hijjah. Donc la fête du sacrifice, elle a lieu le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah. Une fois que ce mois est entré, il est légiféré de faire le takbir al-mutlaq, celui qui n'est pas lié à un temps particulier, en tout moment. Et ce takbir, il dure jusqu'au dernier jour de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour de Dhul-Hijjah. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « Wal-muqayyad aqib al-maktubat min salati fajri yawmi arafah » إلى عصر آخر أيام التشريق. Et al-muqayyad, c'est-à-dire le takbir al-muqayyad, celui qui est restreint à un temps particulier. Il a lieu après les prières obligatoires, les cinq prières. Et ce, à partir du fajr du jour de Arafah, le jour de Arafah qui est le 9e jour de Dhul-Hijjah, la veille de la fête du sacrifice. À partir du fajr du jour de Arafah, jusqu'à la prière de l'Asr du dernier des jours de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Donc du Fajr du 9 de Dhul-Hijjah jusqu'à l'Asr du 13 de Dhul-Hijjah, après les prières obligatoires, il est légiféré de faire le takbir. Et ceci a lieu de manière individuelle et non pas en commun d'une seule voix. Ceci est donc la différence entre ces deux formes de takbir. Le takbir al-mutlaq, qui n'est pas lié à un moment particulier, et le takbir al-muqayyad qui est lié à la prière obligatoire. Et celui-ci est légiféré seulement pour la fête du sacrifice, du fajr de Arafah jusqu'à l'asr du 13e jour de Dhul-Hijjah. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa sifatuhu, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Et sa description est de dire, comme vous l'avez entendu, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Ceci est donc une des manières de faire le takbir qui est rapportée des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Quant à la preuve du takbir al-mutlaq, lors des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est le hadith d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Il n'y a pas de jour plus immense auprès d'Allah et durant lesquels les œuvres sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul-Hijjah. Il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, alors multipliez durant ces jours le tahlil, le takbir et le tahmid. Le tahlil qui est le fait de dire la ilaha illallah, le takbir qui est le fait de dire Allahu Akbar et le tahmid qui est le fait de dire alhamdulillah. Et concernant le takbir al-muqayyad qui a lieu après les prières, la preuve est ce qui est rapporté de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait le takbir après la prière du Fajr, le jour de Arafah, jusqu'à la prière de l'Asr, le dernier jour de Tashriq, le 13e jour de Dhul-Hijjah. Et l'imam Ahmad, rahimahullahu ta'ala, a été interrogé à ce sujet, au sujet du takbir al-muqayyad. Sur quoi se base-t-on pour le faire? Il a dit, rahimahullahu ta'ala, sur l'unanimité et Omar, Ali, Ibn Abbas et Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhum. On a donc terminé concernant ce chapitre, ainsi que l'ensemble des chapitres du livre de la prière, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullahu ta'ala, a mentionné un chapitre qui concerne les rites funéraires. Donc, étant donné que celui-ci a un lien avec la prière, nous le lirons dans le prochain cours. Inch'Allah ta'ala. On a donc terminé pour ce soir. Ce qui était juste provient d'Allah et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.